juste avant l'aurore, le voilà zombie sur le pied de guerre. Il se retourne vers le passé, le tutoie et n'y débusque que des petits animaux effarés, les bribes de souvenirs défaits. Tu sais, c'était l'été où il a fait si chaud. Ou bien, tu te souviens, elle portait une robe rouge. Cette restauration n'en finit pas. Il y a des déchirures irréparables dans la tapisserie, des taches, des trous dans le motif. Il ne voit pas le rapport. Un torchon, une loque. Alors, tandis que dans la pénombre bruissent des questions pénibles, des interprétations embarrassantes, coule de son cœur l'humeur noire des regrets. Ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas pu dire, satané dégonflé. Et s'enroule autour de son cœur la liane étouffante de la haine ressassée. Rejouer les dialogues, régler des comptes, rabâcher les défaites, les peines inutiles, la liste des ressentiments. Il tente de contrarier cette débâcle par une mitraille d'obsessions plus optimistes, tout ce qui va bien dans le fond, mais il y a toujours un démon que ses gesticulations font sourire.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Olivier a des insomnies. Les pires, celles du petit matin, durant lesquelles les ratés, les regrets, les remords, les manques envahissent la mémoire et repeignent la vie en gris. Jean, lui, était carrossier taulier, mais quelques mauvais choix plus tard, le voici homme de ménage chez un vieux qui lui frôle un peu trop les fesses. Veuf, depuis quelque temps, Nicolas refuse de tourner la page, faisant fuir ses derniers amis, lassé de son apitoiement sur lui-même. Gilles se sent bien mieux dans la clinique psychiatrique où il est interné, bien mieux que dans son doux foyer où il a laissé femme et enfants. La trop jolie Mathilde est institutrice dans un village de montagne et découvre un jour que ses élèves la haïssent. Laurence se trouve supérieurement laide, elle se sait plus intelligente que les autres et entre sans cesse dans des rages folles. Et lorsqu'elle pleure, nul n'ose lui demander pourquoi. La petite Catherine, elle, aimerait tant, pour son 10e anniversaire, pouvoir massacrer tout à loisir ses parents et sa petite sœur. Ils et elles sont, comme vous et moi, banals, ternes dans le regard des autres, sans talent particulier, avec des blessures mal guéries et des pensées inavouables. Ils et elles forment le commun des mortels, matière humaine insaisissable que seuls les écrivains parviennent à travailler, ramenant à la surface des pages les éclats de diamants noirs de ces vies que l'on dit trop vite sans intérêt. Gérard Lefort, après Les Amygdales, son précédent roman dans lequel il creusait l'inépuisable continent noir de la famille bourgeoise, revient avec une peinture en 27 tableaux de notre paysage contemporain. Que voyons-nous vraiment de ces visages, de ces silhouettes que nous croisons chaque jour dans le métro, à la caisse de l'épicerie, à la sortie des écoles ? Le romancier à l'œil acéré leur a imaginé des destinées baroques, cruelles, follement drôles, horriblement tristes, totalement foutraques. Le commun des mortels, paru aux éditions de l'Olivier, est le nouveau livre de Gérard Lefort, qui est aujourd'hui l'invité de l'humeur vagabonde.
Went so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know.
Bonjour Gérard Lefort.
Bonjour Catherine Eva, merci pour votre invitation.
Oui, une petite Madeleine de Proust au début, un petit coup de Moby qui a été votre générique sur cette même chaîne.
Pendant des mois et des années même.
Alors, Le commun des mortels, Gérard Lefort, c'est un très beau titre. J'ai l'impression que ce titre-là vous trottait dans la tête depuis pas mal de temps.
Oui, et c'est grâce à La folie Almayer de Joseph Conrad. Et l'exergue était « Je m'intéresse au commun des mortels ». Conrad, qui est un des écrivains que je préfère au monde. Alors c'est deux choses en même temps, c'est à la fois Conrad, je m'intéresse au commun des mortels, et une citation de Jacques Tati que j'adore, qui disait « Je ne m'ennuie jamais en attendant un avion dans un aéroport ». Parce qu'il y a tellement de choses, comme sur les grands boulevards, il y a tant de choses à voir, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est les deux Tati humour, quoi, voilà. Et puis Conrad un peu plus de gravité, je crois qu'on est tous comme ça, dans ce mélange de curiosité étrange à se pencher vers les autres, ou comme dans le film de Wim Wenders, Les anges du désir.
Les ailes du désir.
Oui, parce que ce sont des anges, des héros, qui ont cette capacité incroyable d'entendre les pensées. Je suis un insatiable du genre humain, quoi, voilà.
Mais en fait, je me demandais, Gérard Lefort, en vous lisant, si c'était pas aussi une sorte de repentir, comme on le dit pour les peintres, à cause de ce métier de journaliste que nous partageons et qui fait qu'on est souvent, par la force des choses, on va vers les gens qui ont quelque chose à vendre, qui sont connus, des gens qui ont des noms et qui nous racontent des histoires, bon, un peu formatées. Et à chaque fois, on repart avec le regret de pas avoir fouillé sur, justement, la petite dame qui, derrière, ne disait rien, ou celui qui a ouvert la porte et qui s'est... Voilà. Est-ce que c'est aussi une manière de remplir les blancs, de laisser par ces années de journalisme ?
Oui et non. Repentir, ça c'est un beau mot, effectivement, quand il est employé par les peintres. En même temps, je me souviens autant à Libération que sur les antennes de France Inter, la seule ligne générale qu'on avait, moi et quelques autres, dont Marie Coleman, c'était tout simplement de tendre la main aux faibles et de, je dois le dire, tataner les puissants. Donc c'était un peu la seule ligne, et donc s'intéresser aux à-côtés, oui, des à-côtés de la vie, de la promotion des livres ou des films. À France Inter, on avait, et vous en savez quelque chose, absolument toute licence et liberté, grâce à des gens comme Pierre Bouteiller, par exemple, de donner la parole à des écrivains qui n'étaient interviewés par personne et de leur donner du temps, surtout. Ce qui est une rareté. J'entendais encore sur les antennes de France Culture, excusez-moi, il y a quelques temps.
Vous êtes pardonné.
C'était Raoul Peck qui disait, c'est une des dernières chaînes, il parlait de Radio France en général, où on nous donne du temps pour s'exprimer. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est de donner un peu de temps et d'écriture à des gens qui n'en ont pas ou peu, s'il faut trouver des modèles, et du côté du cinéma, puisque ça a été ma passion, et c'est toujours ma passion pendant des années, j'ai pensé tout de suite aux frères Dardenne, par exemple, mais aussi à des gens comme Bruno Dumont, qui ont commencé dans un registre un peu rude, si on pense à La vie de Jésus ou à Flandre, voilà, très beau film sur la guerre, Flandre d'ailleurs, et puis qui maintenant est dans un registre hautement, follement comique, avec Maloute notamment, mais surtout Petit Quinquin. Pour moi, ce sont des guides, c'est pas des modèles. Je me dis, on peut être terriblement drôle et horriblement gentil. Voilà.
Eh bien, commun des mortels, Gérard Lefort, moi, ça m'a fait penser à une très jolie expression qu'employait le sociologue Pierre Sansot. On va l'écouter en parler.
Ces gens de peu disent « Je suis à ma place, je ne déborde pas ma place, mais en revanche, je ne vous demande rien. Par conséquent, je ne vous dois rien. On peut être fier précisément parce qu'on est modeste, parce qu'on n'excède pas sa place. Et ma foi, la place existe. Et lorsqu'on est en masse, elle existe encore plus fort. Une ville, un pays n'existe que par tous ces gens quelconques. On pourrait croire que ces gens de peu agissent massivement, brutalement. Oui, on a peur d'ailleurs des gens de peu. Ah, si jamais ils voulaient plus que le peu, mais qu'arriverait-il s'ils voulaient plus que le SMIC, je veux dire moral, pas le SMIC monétaire qu'on leur concède. Qu'arriverait-il? Or, je me suis aperçu qu'ils avaient vraiment le sens du chuchotement, du presque rien. C'est-à-dire, je fais des Jankelevich appliqués à la sociologie. Oh, ben finalement, c'est du Modiano. Mmh. La seule différence, c'est que les héros de Modiano sont dans des palaces, c'est dans des villes balnéaires. Moi, je suis dans une tente. Et je reconstitue le monde de la même manière, avec les mêmes nuances. Et peut-être le même ennui. Le même ennui, mais ennui métaphysique.
Gérard Lefort, Modiano au camping, finalement, je trouve que c'est une expression qui irait pas mal à un certain nombre de vos personnages dans Le commun des mortels.
Oui, c'est bien, c'est formidable ce qu'ils viennent dire, les gens de peu. J'avais oublié.
1991, ce livre qui s'appelait Les gens de peu.
Et les gens de peu, c'est vraiment ceux-là qui m'intéressent, avec qui j'avais envie de faire un bout de chemin, un bout de littérature, de les prendre par la main. Certains m'ont lâché la main en cours d'écriture en disant mais fous-moi la paix. Au point que c'est eux qui m'ont abandonné, c'est pas moi qui les ai lâchés. Ce qui est très très dur, c'est de jamais surplomber. Voilà. Parlons nous-mêmes et c'est pas si compliqué que ça. C'est de la fiction, hein, bien entendu. Mais de plus en plus, le temps passant, je trouve que c'est très facile de parler aux autres. C'est très simple, notamment dans une grande ville comme Paris. Il suffit par exemple de dire bonjour et sourire, puisque comme les gens font majoritairement la gueule quand même dans les transports en commun, il y a de quoi. Généralement, c'est parce qu'ils vont travailler, c'est pas pour rigoler qu'ils sont dans le métro. Mais je comprends aussi qu'on soit repoussé par des gens qui ont d'autres soucis que de discutailler avec un zozo qui leur demande. Et puis, il faut pas devenir couillon, quoi. C'est pas alors c'est chouette la vie dans le fond. Non, dans le fond, la vie c'est pas chouette du tout. On connaît tous son terme, donc c'est pas chouette du tout, mais une fois qu'on sort de cette paralysie, le memento mori, le fameux n'oublie pas que tu vas mourir, sinon on peut pas vivre comme ça, sinon, parce que c'est la paralysie générale, je trouve que la littérature, en tout cas en France, elle est soit dans l'hystérie, se met à écrire vulgaire, soit dans le une manière de toiser son sujet, d'être presque sociologue de ce qu'on écrit. Et c'est très dur de trouver une espèce de non pas de juste milieu, qui est un endormissement total, mais qu'on soit à la fois proche. C'est-à-dire, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas une petite fille de 10 ans qui veut tuer ses parents. Je ne suis pas un maçon qui sait construire des murs et qui
va sait aussi les déconstruire.
Oui, qui sait aussi les déconstruire. Mais ça, c'est peut-être la belle folie de la littérature quand on a le culot de se lancer là-dedans, ou l'audace, ou l'impudence, je ne sais quoi. De dire « je vais écrire des livres ».
Alors, vous le disiez, Gérard Lefort, pas d'écriture en surplomb, une écriture à hauteur d'homme et parfois à hauteur de pavé des rues. On écoute un petit croquis d'un personnage. Elle s'appelle Sophie et elle porte des cabas bien trop lourds pour elle.
Elle a calé les deux cabas contre le mur le plus doucement possible. Mais elle voit bien que ça ne va pas. Elle a beau le prévoir, tout organiser, ça s'affale quand même là-dedans. Il y a aussi le souci de la meilleure posture pour renouer le lacet. Accroupie, ou alors en se cassant le dos en deux. Elle trouve finalement qu'avec un genou en terre et l'autre jambe repliée sous elle, c'est ce qu'il y a de moins gênant, à condition que personne ne la remarque. Elle renoue les deux bouts, très serrés, avec double boucle. Ce qui veut dire que pour le reste de la journée, son pied sera un peu congestionné et que ce soir, ce sera difficile pour retirer le soulier. Ça finira qu'elle le retirera en force en laissant le lacet noué. Et demain matin, au moment de remettre les chaussures, l'épreuve sera pire. Il faudra tripoter le nœud du lacet dans tous les sens. Ça ne sera pas commode avec ses ongles rongés. Et s'énerver là-dessus avec les dents, la salive va gonfler les fibres du lacet et ce sera encore plus impossible, ainsi de suite. Sophie est une obsessionnelle. C'est Denis, son mari, monsieur je-sais-tout, qui le disait. Ça lui fait une belle jambe de tout savoir maintenant qu'il pourrit au cimetière. Sophie reprend ses deux sacs dont les anses sont en ficelle tressée. Elle lui imprime des cicatrices violettes sur les paumes. C'est si lourd que ça lui arracherait presque les bras des épaules. C'est comme les fourmis dans les pieds quand on reste trop longtemps les jambes croisées, ou bien de se retenir d'aller au petit coin jusqu'à avoir mal au ventre et même des fois faire dans sa culotte. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas tout à fait à elle que ces horreurs arrivent. C'est à une autre, à l'intérieur. Vieille ennemie, diablesse et sœur jumelle, qui se nomme elle aussi Sophie. Elle calcule son équilibre et se fixe des objectifs. Tenir jusqu'à la bouche d'incendie et arriver là-bas, permuter le sac le plus léger, main gauche, avec le plus lourd, main droite.
Gérard Lefort, cette Sophie qui trébuche dans la rue, qui a mal aux pieds, qui a des sacs trop lourds, on en a tous croisé. Et en général, on s'en va légèrement honteux parce qu'on est pressé, qu'on n'a pas le temps. Et puis qu'en plus, elle n'est pas très aimable en général.
Non, elle n'est pas très sympathique. Moi, je ne voulais pas faire des personnages sympathiques, enfin, décréter qui seraient sympas, trop cool, comme disent les jeunes aujourd'hui. Non, elle n'est pas sympathique. Ça me fait, vous savez, d'une certaine manière, ça nous est, je suis sûr que ça vous est arrivé, bien entendu. C'est le coup du clochard par terre à Paris ou dans une grande métropole. On a envie de faire quelque chose, mais quoi? Et puis pourquoi? C'est-à-dire.
Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre?
Et puis, il y a un État en France, il y a des administrations qui font très très bien leur boulot d'aide aux gens qui sont couchés par terre dans la rue. Il y a le SAMU social, qui est un truc formidable, dont personne ne parle pratiquement jamais, qui font un boulot extraordinaire. Donc pourquoi il y a toutes ces institutions françaises qui fonctionnent, et heureusement, institutions républicaines, je précise, hein, qui sont là. C'est comme les quêtes publiques, vous savez, pour le SIDAction. Alors bien sûr que je donne, bien sûr qu'on donne tous pour le SIDAction, par exemple, mais c'est pas notre boulot de donner pour le SIDAction, dans le fond. C'est pas notre boulot de faire la charité, c'est à l'État de s'occuper des gens qui sont malades. Ils le font très bien. Qu'on fasse appel comme ça régulièrement à notre charité publique, puis j'y pense et puis j'oublie, c'est exactement ça que je voulais faire passer par ce personnage de Sophie, oui, qui doit être une sacrée emmerdeuse par ailleurs. Elle dit qu'elle est que c'est une obsessionnelle. Il n'y a rien de plus invivable que les obsessionnels, ou comme les grands alcooliques qui vous répètent 15 fois la même chose. À un moment donné, fous-moi la paix, quoi, fous-moi la paix. Et on les aime en même temps.
Mais on les aime tous, effectivement, vos 27. Mais je me demandais si vous les graviez dans votre mémoire, si vous les reconstituiez à partir de petits éclats de vision gardée au tréfonds de la mémoire, ou si vous aviez un petit carnet, comme les dessinateurs en ont, et si vous croquiez sur un coin de table, au bistrot, dans le métro, un geste, un regard, quelque chose qui vous inspire. Comment ça se passe?
Non, il n'y a pas de carnet, c'est plutôt ce que vous disiez, c'est un rassemblement d'éclats, de fragments, de coups d'œil à droite, à gauche, sauf pour un personnage qui est infirmière de nuit. Et ça a été un truc de dingue. C'était dans le train qui m'emmenait vers ma Bretagne chérie. Donc c'est long, hein, d'aller en Bretagne. C'est 4h30 de train, en tout cas en ce qui me concerne. Et il y avait une femme intarissable qui parlait à une amie qui n'en pouvait plus. Elle a parlé pendant 4h30 quasiment continuellement. Insupportable. C'est comme les gens qui téléphonent dans les wagons. Sauf qu'à un moment donné, je me suis intéressé à ce qu'elle racontait. Et c'était toute une vie. Et elle le disait parce qu'elle savait que que ça durerait pas, que c'était le temps d'un voyage en train, et que ma foi, elle aurait pu parler à un mur, ça aurait été pareil. Donc là, oui, j'ai pris des notes, c'est la seule fois que j'ai noté, parce que j'étais sidéré, parce que le chaos apparent de ce qu'elle racontait, et qu'en fait, n'était pas du tout un chaos, c'était toute une vie. Et puis moi, j'aime bien les infirmières de nuit ou de jour, d'ailleurs.
Mais Gérard Lefort, d'ailleurs, tous vos personnages, on sent qu'ils pourraient être assez facilement comme cette infirmière rencontrée dans le train. C'est-à-dire que vous êtes le réceptacle de cette parole empêchée ou de cette parole qu'on n'écoute pas. Là, ils prennent leur revanche. Alors, vous disiez tout à l'heure, certains m'ont échappé, mais là, ils se sont glissés. Quand ils ont accepté d'être sous votre plume, ils se sont épanchés.
Oui, j'avais l'impression presque d'être leur secrétaire, celui qui note, secrétaire perpétuel de leur vie, quoi, voilà. Et oui, il y a un moment donné où c'est eux qui me... C'est eux qui me parlaient à l'oreille. Enfin, c'est très étrange. Hein. Alors, l'inspiration sous ces machins-là. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment donné, ça devenait des compagnons de route. Pas des amis, forcément. Vous avez raison. Certains personnages sont volontairement ou involontairement pas très sympathiques et pas très fréquentables. Et puis d'autres, c'est vraiment de l'ordre de la randonnée. Alors, j'aime bien le mot randonnée, parce que j'adore randonner, par ailleurs. Et puis, ça vient de l'anglais random, qui veut dire le hasard. Alors, j'adore cette idée qu'on peut faire un bout de route, un bout de chemin, un bout de vie, que ça dure des années ou une heure, avec quelqu'un qui, non pas raconte sa vie, rien n'est plus lassant, et puis maintenant, il y a des spécialistes qui sont payés pour qu'on leur raconte notre vie, en tout cas, pas la mienne. Hein. Mais, et voilà, ce sont des... Il s'est passé dans ces moments de randonnée avec l'humain, quoi, en général, avec des individus qui incarnent l'humain. C'est ce qui s'est passé dans ce bouquin. J'étais ravi de les avoir rencontrés. rencontrés. Alors j'espère qu'ils sont ravis de m'avoir rencontré, eux aussi, mes personnages. Voilà, c'est un peu de... C'est... Randonnée, c'est le mot qui me convient le mieux pour essayer de décrire ce que j'ai essayé de faire, quoi.
Maya s'endort sous les monts d'araignées. Maya s'endort sous les monts d'araignées. Dans le vent brûlé. Là où poussaient les roses. Là où poussaient les roses. Maya se repose. Maya s'endort sous le mont d'araignée. Maya s'endort sous les mont d'araignée. Dans les vents brûlés. Elle seule sait que bientôt repousseront les roses. Repousseront les roses. Maya repose sous le mont d'araignée. Maya repose sous le mont d'araignée. Sans peur repose. Une tache au cœur comme une tache au cœur comme un bouton de rose, un bouton de rose.
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
Edith était arrivé devant le café. Il restait quelques rares consommateurs installés à la terrasse couverte, un couple près du calorifère et un jeune gars au coin opposé. Le couple échangeait des baisers sans rien dire. Le jeune homme lisait son journal de sport. Elle entra sans regarder personne et alla s'asseoir près de la porte à tambour qui menait à la grande salle. Des gouttes de condensation dévalaient le long des vitres. Elle retira son manteau qu'elle rejeta en arrière sur le dossier de la chaise. Le serveur avait l'air éreinté. Son visage était couvert d'une sombre rougeur. Il passa un coup de torchon sur la table. Elle commanda un demi-panaché, bien blanc s'il vous plaît. Donc, elle était la première. À tout hasard, elle fit quand même semblant d'aller aux toilettes. Il n'était pas à l'intérieur du café. Quand elle revint, le panaché était servi. Un peu de mousse avait débordé, Elle but une gorgée. Le carton du sous-boc resta collé au pied du verre. Le couple avait disparu. Il ne restait plus que le jeune qui lisait toujours son journal de sport. Le serveur restait planté à côté d'elle. Il avait l'air à la fois épuisé et furieux. Elle lui demanda l'heure. Il lui tendit sa montre en soupirant et dans le même mouvement, il lui indiqua du pouce le panneau des horaires d'ouverture. Le café allait fermer dans 10 minutes. Le jeune homme au journal de sport se leva et jeta des pièces dans la soucoupe. Le tintement la fit sursauter. Le serveur s'éloigna vers le fond du café. Elle attendit l'heure pile de la fermeture. Alors, Edith enfila lentement son manteau. Très lentement, une manche après l'autre. Elle dit tout bas, « C'est pas grave, j'ai du mal comprendre. »
Gérard Lefort, autre petit arrêt dans le commun des mortels, avec Edith au café. C'est une nouvelle, c'est pas un portrait, c'est vraiment quelque chose qui rappelle... Voilà, d'autres nouvelles comme celle de Carver, où les gens rentrent dans des cafés, ils sont terriblement seuls. Je me demandais si le point commun à tous vos personnages, c'est la solitude.
Oui, c'est la solitude peuplée. C'est-à-dire, c'est une solitude nombreuse. C'est seul parmi les autres, mais c'est seul avec les autres. J'écoutais, c'est Eric Oswald.
C'est Eric Oswald qui lit.
Superbe.
Magnifique lecteur.
Mais j'aimais
lecteur.
Bien l'illustration sonore, parce que très loin derrière, il y avait Céline Dion qui nous chantait la chanson de Titanic.
C'est Laurent Thomas qui a trouvé le mixage. Enfin, oui,
bravo,
dans un café,
bravo,
on peut
parce
entendre
que
ça.
C'est exactement l'esprit de mon bouquin. C'est-à-dire que, j'espère. C'est-à-dire qu'on peut lire une histoire et se demander si derrière il n'y a pas d'autres sons, des chansons, ce qui nous arrive à tout. On ne pense jamais à une seule chose à la fois, ça se saurait. Hein. C'est exactement ça. Ce sont des gens seuls mais peuplés. Mais comme nous tous, c'est-à-dire personne ne peut dire je suis une seule chose à la fois, je suis une femme, je suis un homme, je suis je sais pas quoi, un homosexuel, un hétérosexuel. Ça serait trop triste si on était une seule chose à la fois. Quelle tristesse. Comme disait Gilles Deleuze, on est des multiplicités. Ben, vive la multiplicité. Donc oui, le point, un bien commun presque, c'est effectivement la solitude, des histoires dont on va dire « Oh ben c'est pas très gai ». Mais si, il y a une gaieté de fond dans l'histoire que vous avez privilégiée de cette femme qui attend un rendez-vous d'amour, quoi. Elle est tombée amoureuse. Et, c'est aussi tout ce qu'elle voit. Elle voit un jeune homme en train de lire sans doute l'Équipe ou un journal de sport. Elle voit un couple d'amoureux. Elle voit la condensation sur les vitres. Elle n'est pas obsédée d'elle-même. Elle fait attention au fait que le serveur a l'air crevé, c'est une fin de service. Donc c'est ça, elle est peuplée. Peut-être à son insu, on est tous peuplés. On est peuplés de fantômes, les fantômes de nos amis disparus, par exemple. Mais c'est pas forcément triste. C'est la fameuse chanson « Que sont nos amis devenus ?» que j'avais de si près tenu. Bon, c'est pas une chanson très gaie. Et en même temps, ça veut dire qu'on avance dans le monde accompagné, toujours accompagné. Et pas simplement les histoires de parents, d'hérédité, machin, mais de toutes les parentèles qu'on s'est créées, qu'on s'est inventées. Les meilleures familles, c'est celles qu'on s'invente. Hein. Donc oui, la solitude, mais des solitudes, encore une fois, phosphorescentes et nombreuses. Oui, oui.
Et d'ailleurs, des solitudes que les nouveaux moyens de communication rendent beaucoup plus amères. Parce que Edith, au café, voilà, elle est distraite de cette attente un peu amère par la vie des autres qui sont là. Elle voit qu'ils ont leurs problèmes, ça allège les siens. Tandis qu'un homme qui cherche une rencontre d'amour sur Internet et qui ouvre la porte et qui ne sait plus quoi faire, ça, c'est probablement un des chapitres les plus cruels de votre livre, Gérard Lefort.
Oui, j'ai voulu qu'il y ait ce surgissement de ce qu'on appelle, avec 200 tonnes de guillemets, la modernité. Je ne suis pas peu fier, par exemple, qu'il n'y ait pas de téléphone portable dans mon livre. Ça, c'est une volonté absolue. Mais il y a l'Internet, le net, voilà, les trucs de rencontre entre un monsieur d'un certain âge et un jeune homme qui est beaucoup trop jeune pour lui, dont il réalise instantanément que c'est presque misérable et lamentable et pathétique et grotesque. Je trouve, je ne suis pas le seul, il y a des gens qui ont écrit des trucs formidables, que ce sont des machines à solitude, les ordinateurs, les téléphones portables. Alors, bon, de nouveau, je cite Pierre Boutillier, qui est la première fois que les téléphones portables sont apparus, il disait c'est le fil à la patte. Mais c'est vraiment ça. Et il avait appelé ça tout de suite les insupportables, Pierre Boutillier. Mais y a une organisation de la solitude et qui est organisée pas par n'importe qui est organisée par le marché, par les marchands de téléphones et d'ordinateurs qui créent les fameux besoins dont le capitalisme est assez balèze pour créer des désirs, des besoins qu'on n'a pas du tout par ailleurs. En venant dans votre émission, je discute avec un chauffeur du taxi de l'usage du portable, des téléphones portables dans son taxi et il se retourne vers moi et dit je n'en peux plus. Il dit les gens passent leur temps à téléphoner pour dire allô, je suis dans un taxi. Et ils raccrochent. Vous savez, dans le train, on a tous vécu ça. Allô, je suis dans le train. Et ils raccrochent. C'est une information cruciale et importante. Mais au-delà du gag, tout ça est une organisation, oui, il faut appeler les choses par leur nom, du capitalisme qui a toujours besoin de créer de nouveaux désirs pour faire plus de profit. Tout simplement, c'est aussi énorme et épouvantable que ça.
Alors, dans Le commun des mortels, il y a les personnages qui ne parlent pas, qui n'en pensent pas moins, et qui sont murés dans leur solitude, qui ont du mal d'ailleurs à exprimer leurs sentiments. Vous êtes là pour ça. Ou le lecteur d'ailleurs, parce que le lecteur peut imaginer, comme à la radio, il peut imaginer un profil, un visage, une couleur de cheveux, une couleur de pensée également. Et puis, il y a les personnages qui râlent tout le temps. Et finalement, ce ne sont pas ceux à qui la vie réussit le plus. On pourrait penser, par exemple, comme Laurence, qui est une femme très, très volontaire, qui dirige tout son petit monde à la baguette, qui est crainte par sa famille, ses amis, qui compense le fait qu'elle soit laide, qu'elle se trouve laide, par le fait qu'elle se sent beaucoup plus intelligente et plus volontaire que les autres. Et pourtant, elle a le cœur brisé. Mais personne ne sait pourquoi.
Non, on ne saura jamais pourquoi. C'est l'histoire d'un pique-nique, voilà, une partie de campagne, comme on disait autrefois, qu'elle organise de façon qu'elle militarise une partie de campagne. Tu portes ça, tu fais ça, toi les couvertures, toi les boissons, machin. J'ai pensé beaucoup en écrivant cette nouvelle à Maupassant. C'est-à-dire, pour moi, c'est un personnage de Maupassant. J'ai eu d'un seul coup une vision des personnages féminins de Maupassant qui sont fabuleux. Enfin, j'ai dit des banalités qui sont, voilà, Maupassant, donc. Et j'ai pensé à une vie, enfin, toutes ces femmes impérieuses et bousillées en même temps. Alors, elle fait partie, peu importe le genre d'ailleurs, que ce soit féminin ou masculin, des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot. Quitte à ce que ce mot soit le mot de la fin et le mot qui tue. Et on en a tous connu des gens qui vous parlent comme s'ils parlaient à un mur ou qui prétendent jouer au tennis, mais enfin, ils font du mur. Donc, puis on a l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'interlocution. Donc, c'est ce genre de personnage. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour elle parce que à la fin de cette partie de campagne, il fait beau, c'est l'été, ils se baignent tous à moitié à poil dans des torrents, on mange, on fume, on boit, on rigole, il y a des enfants qui batifolent. C'est sans doute la journée la plus sinistre de sa vie parce que c'est le jour où elle va réaliser qu'effectivement, comme disait la belle chanson, au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Mais j'avais envie de lui tendre la main, celle-là, alors qu'elle est vraiment pas sympathique. C'est une chieuse, c'est une chiante, avec son mari, avec sa fille, enfin bon. Et je voulais lui donner sa chance, voilà. C'est un peu mon idée générale, c'est de donner leur chance à des gens qui n'en ont pas ou peu. Voilà.
Et puis vous disiez, Gérard Lefort, et on le sait tous à quel point vous aimez le cinéma et vous le connaissez par cœur, et il y a certaines nouvelles qui sont véritablement des scènes de cinéma qu'on rêverait d'ailleurs de voir, et on donne des visages d'acteurs à l'un et à l'autre.
Mathilde resta muette jusqu'au pied de l'immeuble. Sur la porte d'entrée, un écriteau indiquait « ascenseur en panne ». Elle grogna qu'il ne manquait plus que ça. Elle grimpa jusqu'au 5e avec le rosier dans les bras. Antoine fit 5 allers-retours pour monter le reste. Au dernier voyage, il vit qu'elle était déjà sur la terrasse en train de s'affairer à ses plantations. Mathilde avait mis son tablier de ménage, celui avec des escargots imprimés. Il la rejoignit, alluma une cigarette, s'attarda à l'observer. À croupetons, elle creusait des trous dans la terre d'un bac à fleurs. Maintenant, elle peine à accrocher une jardinière sur la rambarde. Son buste est suspendu en déséquilibre au-dessus du vide. C'est simple, il n'y a qu'à la pousser pour qu'elle bascule et s'écrabouille 20 mètres plus bas sur le bitume du parking. Ce sera un accident. Antoine se dirige vers elle. Il ne fait pas de bruit. Ses bras se tendent. Ses mains vont atteindre son dos. Il va la pousser. Ça va arriver. Mais elle se retourne brusquement en brandissant son plantoir. Je ne te le conseille pas. Vraiment, Antoine, je ne te le conseille pas. Elle a dit ça d'une voix inconnue, un bruit rauque qui lui venait du ventre. Il murmura quelque chose d'insultant, écrasa sa cigarette dans un des bacs à fleurs et retourna à l'intérieur de l'appartement. Allongé en travers du canapé, il se calme et réfléchit. Il y aura bien d'autres occasions. Il a tout son temps. Mathilde revient de la terrasse en essuyant sur son tablier ses mains crottées de terre. Elle se campe devant lui, les bras ballants, les jambes écartées. « Minou, si je lance un thé, tu en prendras une tasse? Ça nous fera du bien. » Il acquiesce en silence sans la regarder. Il tourne la tête vers la fenêtre. Il remarque dans le ciel un amalgame de nuages noirs. Bientôt, des éclairs, un orage, des averses, la pluie. Après toute cette chaleur, c'est pas dommage.
Gérard Lefort, douce famille, ça c'est votre terrain de jeu, on se souvient des amygdales. Voilà, c'est au sein des familles qu'il y a le plus
mais
à glaner.
Je voulais que ça vous fasse rire, parce que je n'avais jamais entendu ce texte lu, et à l'écouter, ça m'a vraiment, je trouve que c'est comme si c'était pas moi qui l'avais écrit, je trouve que c'est un texte comique. Hein. Oui. Donc je suis content d'avoir réussi cet effet-là. Ben oui, on a tout. Vous savez, c'est une fois, j'avais entendu, il y a fort longtemps déjà, sur France Inter, Françoise Dolto, lorsque l'enfant paraît, et elle avait dit, mais une mère qui n'a jamais eu envie d'étrangler ou de jeter son enfant dans la cage d'escalier est une mauvaise mère. Et j'avais dit, c'est formidable, c'est exactement ça. Et ben oui, cette dame qui appelle son mari systématiquement mon minou et non pas Antoine, oui, il y a des moments, je conçois, je ne pardonne pas, mais je conçois qu'il ait envie de la pousser du cinquième étage de l'immeuble et qu'elle s'écrase sur le parking 20 mètres plus bas. Oui, je conçois.
Mais d'ailleurs, quand on a lu Les Amygdales, votre précédent roman, toujours paru aux éditions de l'Olivier, Gérard Lefort, il y a des échos quand même. D'ailleurs, il y a des personnages qui ressemblent. On sent bien que ce continent-là, celui des rapports d'amour obligés, finalement, qu'on nous inculque, c'est celui qui permet ce genre de scènes qui sont à la fois terribles et terriblement drôles.
Oui, c'est vrai. Alors là, c'est très vrai. C'est un petit monde, quoi, qui me hante, qui m'entoure, qui m'intéresse toujours, qui des fois me fait rire ou m'exaspère aussi. J'avais envie de les... non pas de les comprendre, mais de les laisser s'exprimer. Et exprimer, effectivement, ce que vous dites, elle sert les pièges de la conjugalité, des mariages pas arrangés, mais arrangeants, ou des vies moyennes, des vies... Et puis, il y a quand même une forte densité de gens qui sont plutôt du côté du prolétariat que de la bourgeoisie. D'ailleurs, c'était un des travaux formidables que j'ai fait avec mon éditeur, et surtout mon éditrice, Laurence Renouf. Il y avait une bourgeoise là-dedans, elle l'a virée, elle m'a dit « hors sujet ». Et j'ai dit, mais oui.
Elle détonnait au milieu du commun des mortels.
Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, celle-là? Et elle m'a dit un truc très drôle, elle a fait le geste qui l'accompagnait, elle a fait, dégage. Et elle avait tellement raison. Alors, vous avez un auteur à qui on dit un chapitre de 14 pages qui doit dégager. Mais elle avait tellement raison. Hors sujet total, quoi.
Mais il y en avait beaucoup d'autres, personnages?
Non, il y en avait deux ou trois autres que d'un commun accord avec Laurence Renouf, mon éditrice aux éditions de l'Olivier, on leur a dit, dégage, on est bien à table tous ensemble, alors toi, franchement, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es bête, qu'est-ce que t'es conne, ou en l'occurrence, et on les a de concert dégagés.
Ouais. Mais c'est étrange de dire pour un écrivain, Gérard Lefort, il y a des personnages qui étaient cons, désagréables, insupportables. Mmh. C'est en principe, quand on écrit, il y a toujours quelque chose qui vous accroche dans un personnage. On ne peut pas écrire sur un personnage totalement nul, c'est pas possible.
Non, mais sur un personnage totalement nul, non, mais sur totalement bête, oui. Sur la bêtise, c'est sidérant. Enfin, c'est sidérant, oui. Flaubert, etc., Bouvard et Pécuchet. Mais c'est vrai que c'est une vraie sidération, là, pour parler poliment, la connerie. Moi, ça me sidère à quel point, partout, tout le temps, à la radio, à la télévision, dans les journaux, la connerie se dit, s'impose, et il y a une nouveauté, en tout cas, depuis quelques temps et quelques années, voire même, c'est l'arrogance de la bêtise. C'est-à-dire que non seulement les gens sont bêtes, puis ils s'en vantent. politiquement ou autre.
Vous croyez que c'est nouveau?
Oui.
Franchement.
Et donc, non, la nullité ne fait pas de bons personnages. Mais la bêtise peut faire de formidables personnages. En tout cas, ça fait presque rêver, la bêtise. Alors, c'est pas pour dire, mais moi qui ne suis pas bête, même si on a tous notre part de bêtise, on a tous nos abîmes d'imbécilité en nous. Hein. C'est pas du tout, encore une fois, il ne s'agit pas de surplomber ni de toiser. Mais c'est forcément, parmi tous les gouffres qui nous composent, le gouffre de la bêtise ne nous est pas étranger. Il nous arrive les uns et les autres, plus souvent qu'à notre tour, de tomber dedans. Soit parce qu'on sort une imbécilité, soit parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qui nous arrive, quoi. Voilà.
Naturally, the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes, and fools on his watch while he was alive? Lord, just a little more time. Oh, in no time at all, this will be the dearest still pass. So says the dying man, once I'm in the box. Think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked. The homophobes, hipsters, and 1%. The false feminists he'd manage to detect. All who will critique them once he's dead. Final breath, but first checks his news feed to see what he's about to miss. And it occurs to him a little late in the game. We leave as clueless as we came, from the rented heavens to the shadows in the cave. We'll all be wrong. Thank you.
Gérard Lefort, on parlait de cinéma et de littérature pour vos inspirations, bien sûr, mais je suis sûre qu'il y a aussi la photo, parce que c'est vrai que la photo offre, lorsqu'elle est bien faite, souvent en noir et blanc, des trognes, des visages, des gestes qui peuvent inspirer un écrivain aussi pour croquer des personnages.
Oui, c'est très vrai. Vous avez des dons de devineresse, probablement, Cathy. C'est beaucoup plus des photographies que des films. Mais parce que la photo, c'est le fameux concept de Roland Barthes du punctum. Alors, punctum, c'est très simple, c'est le point où son œil s'arrête quand on regarde une photo. C'est-à-dire, à quel moment, qu'est-ce qui nous arrête dans une image, dans une photographie, pardon, pas dans une image. Ben, ça, c'est extraordinaire parce que c'est la folle du logis qui ouvre la porte à ce moment-là et l'imagination Alors là, on peut imaginer derrière, devant, à côté, au-dessus, je sais pas, où vous voulez, en regardant, en scrutant. Un portrait photographique. Bon, il y a une grande expo Walker Evans en ce moment à Paris, au Centre Pompidou. Walker Evans est donc très connu pour ses portraits au moment de la dépression.
Des Américains.
C'est extraordinaire. C'est-à-dire que je croyais les connaître. Quand j'ai vu l'exposition, je me suis rendu compte que ces gens étaient très jeunes. Ces paysans complètement bousillés par la crise de 29. On regarde leur visage, surtout cette femme célébrissime, hein, cette photo, puis son mari d'ailleurs. Et d'un seul coup, en les regardant vraiment, je dis, mais ces gens ont moins de 30 ans. Et c'est la première fois, et c'est d'évidence qu'elle a sur les genoux, cette femme, des bébés. Mais je pensais qu'ils étaient beaucoup plus vieux. Donc ça, c'est formidable. Ça, c'est la photographie, bien sûr. Parce que c'est pas simplement les portes, c'est tout s'ouvre dans la maison, les fenêtres. Voilà, les courants d'air circulent, les courants d'air de l'imaginaire, quoi.
Eh ben, c'est parce que Vinciane Lomonier s'en doutait bien qu'elle est allée justement rencontrer, bonjour Vinciane, un photographe qui lui aussi s'intéresse au commun des mortels.
Voilà. Frédéric Stussin, un photographe qui, dans sa démarche, dans ses photographies, m'a fait penser à la vôtre dans votre livre. C'est que Frédéric Stussin photographie beaucoup les passants et leur banalité. Il en fait d'ailleurs des séries, des vies attrapées au vol, des moments fugaces, captés, qui disent finalement beaucoup sur les anonymes qu'il croise. Alors récemment, dans le cadre du projet La France vue d'ici, il a pris des photos de voyageurs de la gare Saint-Lazare à Paris. Ces gens de passage dont on peut tout imaginer. Il en a tiré une vingtaine de clichés, comme autant de scénettes, en noir et blanc et en grand format. Je l'ai donc retrouvé devant l'une de ses photographies exposées dans les voies souterraines de la gare Saint-Lazare.
Alors là, on est dans le souterrain de la gare. Il y a une foule très très compacte et 18h34, c'est l'heure de pointe. Hein. Et il y a un personnage qui sort de la foule. On pourrait le prendre et le mettre ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'est pas en connexion du tout avec là, c'est détaché.
Un homme avec un parapluie puis une valise.
Avec, polaire, col remonté et il avance. Parce qu'un train a été annoncé, les gens se sont un peu écartés et lui s'est avancé vers moi. Et d'un seul coup, j'ai pu faire cette image. C'est très fugace. Il y a juste là, un petit instant.
Qu'est-ce que vous imaginez ou vous rêvez de cette silhouette, de cet homme qui fend la foule?
Moi je vois, alors s'il s'est entendu le monsieur, ça le ferait, je pense, mais un mafieux complètement romanesque, quoi. Ces vieux mafieux qui sont haletants, fatigués. Peut me faire penser à Audiard aussi, quand on voit les tontons flingueurs. On pourra peut-être penser, je dis Prévert. On peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est ce qui est génial, je trouve.
Que de photographier des passants. Est-ce qu'il faut aller vite? Est-ce qu'il faut avoir un regard large? Au contraire, chercher le détail?
Je travaille beaucoup dans les moments où des gens descendaient ou montaient dans les trains, donc ça va vite, il n'y a pas d'attente. Donc oui, je vais toujours essayer d'attraper un visage, un regard, surtout un regard. Il faut qu'il y ait un regard qui stoppe l'image et qui raconte quelque chose.
Et donc vous parlez de personnages dans vos photographies?
Oui. Oui, parce que je photographie. Une fois que je les ai captés, enregistrés, mis dans un cadre, retravaillé les contrastes, le noir, le blanc, je n'ai pas photographié Madame Dupont, on va dire. J'ai photographié un personnage. Elle devient un personnage d'une fiction parce que je l'ai prise en train de courir sur un quai, en train de vaquer à ses occupations. Du coup, ça devient étrange, limite inquiétant. C'est-à-dire que si on prend n'importe quelle image, elles deviennent des petites histoires, des petites nouvelles, des petits romans, des petits courts-métrages qui ont leur propre vie.
Alors dans cette photographie, c'est différent, c'est pas l'idée de foule, on a trois personnages qui sont très séparés, un qui regarde en l'air, une femme qui se gratte le nez et un autre homme qui passe devant et derrière quelqu'un qui regarde les journaux dans la boutique, dans le kiosque.
C'était un matin très tôt, je suis fatigué, il fait froid, il pleuvait dehors certainement parce que la dame a un parapluie. À un moment donné, je vois cette scène devant moi de ce monsieur qui avance. Et je ne sais pas pourquoi je fais la photo, parce que je ne sais pas ce qu'il fait.
C'est un homme qui a les jambes légèrement écartées, qui paraît un peu en suspension, avec un journal dans la main droite, un sac plastique dans la main gauche, et qui lève la tête vers le ciel, vers le haut, en fermant les yeux, avec un visage très très blanc.
Et je trouve que d'un seul coup, ce personnage apparaît, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas s'il prie, s'il fait une incantation soleil, s'il est juste somnambule. Enfin, il a pris toute mon attention. Un instant vraiment banal, d'un monsieur qui attend son train, des gens qui passent, prennent en note et qui deviennent finalement un peu magiques. Qui sont ces hommes et femmes de passage?
Qui sont ces hommes et ces femmes de passage?
Que peut-on lire de leur voyage à travers leur silhouette,
sur leur visage?
Ils ont les yeux perdus vers les tableaux d'affichage, la tête penchée sur un smartphone.
Ils profitent d'une correspondance pour flâner, se donner rendez-vous.
Se donner rendez-vous, bien marche droit, la tête haute ou baissée. J'ai étudié le mouvement de ces foules.
J'ai cherché à donner un visage à ces flux anonymes.
Un peu à la manière de William Klein quand il filme les départs en vacances à la gare de Lyon en 63.
La frénésie,
l'agitation.
L'agitation. Alors on est voie 18.
Nous sommes voie 18, c'est une photo qui a été prise voie 1 ou 2. Ça se dirige vers Versailles ou Nanterre. Donc ce qu'on voit, c'est une jeune fille en plein centre de l'image. On voit à notre gauche une personne un peu plus âgée qui a son téléphone portable et quelques petits personnages qui se découpent.
Le train à droite.
Donc là, c'est une descente de train. Je dirigeais le plus rapidement possible vers la foule, je me mettais dans la foule et de temps en temps, j'avançais. Et à un moment, je me vois avancer, voir cette fille arriver vers moi et je fais « Ah, peut-être que... Allez, ah !» Je cadre et je crois qu'elle me regarde et qu'elle me voit prendre la photo. J'ai l'impression que c'est une rencontre, un coup de foudre, comme on pourrait imaginer. Alors que je l'ai vue, je pense, un 60e de seconde, cette jeune fille, mais... Il y a un arrêt, il y a une suspension, il y a un moment un peu... où est-ce qu'elle va? Elle respire, elle a la bouche un peu entrouverte, le regard très très droit. Et finalement, on ne regarde pas du tout. Si on regarde bien, elle est juste au-dessus, elle regarde devant elle. Et moi, quand je choisis cette image, je me demande à quoi elle pense, où elle va, quelle est sa vie, quels sont ses amis. Est-ce qu'elle aura une vie banale comme Cléo de 5 à 7 ou une vie à la Tarantino? Puis après, je regarde ce qui se passe autour. C'est qui ce petit monsieur avec sa petite barbe et sa écharpe bien mise? C'est qui le monsieur avec sa casquette? Au début, on est dans du Godard dans les années 60. Paf, derrière, on est dans un film un peu américain avec une casquette New York. Après, quand on fouille dans l'image, on peut rester des heures et des heures raconter la vie des gens qu'on croise, qui sont des acteurs malgré eux.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier passant photographié, de votre premier commun des mortels?
De dos, très loin et très flou, parce que j'avais peur. J'étais encore étudiant à Strasbourg, aux Arts Déco. Et donc, je marchais derrière quelqu'un et qui était très loin. Petit à petit, on se force à aller un peu vers les gens et trouver sa place à distance, le moyen de les photographier sans les gêner, sans les agresser.
Ça demande du cran, de l'audace que de photographier un anonyme?
Je dirais beaucoup de concentration, être le plus ouvert possible et capter des scènes, se laisser envahir par la scène finalement et peut-être plutôt de l'inconscience, on va dire alors.
Alors, 5 grandes photographies de Frédéric Stussin vont rester de façon permanente dans la gare Saint-Lazare. L'exposition qui a lieu dans le cadre du projet La France vue d'ici, qui rassemble une trentaine de photographes, va se déplacer, elle, à 7 à partir du 24 mai. Et un ouvrage collectif avec ces photos est édité, La France vue d'ici, aux éditions de La Martinière.
Merci beaucoup, Vinciane. Et vous avez fait plaisir à Gérard Lefort, qui connaît le travail de ce photographe.
Oui, il a longtemps travaillé dans le journal qui m'employait, Libération. Mais surtout, j'ai trouvé que c'est formidable quand il y a cette osmose. J'ai l'impression qu'il a fait la bande image de mon bouquin, ce garçon. Mais je les ai vus, les photos. Ils en gardent combien, Saint-Lazare?
5.
C'est dommage parce que c'est... Enfin, bon, bref. Mais c'est formidable le boulot qu'il a fait. Puis ils mettent ça au moment où justement on prend Saint-Lazare, la gare Saint-Lazare, le boulot, les flux de passagers, etc. Et d'un seul coup, voir ces photographies là dans les couloirs en dessous, là, c'est formidable. C'est presque... comme si on voulait faire pardonner le transport urbain, le machin, les trucs. C'est un moment de grâce inouïe, le travail de ce type. Merci, c'est formidable.
Eh bien, peut-être que pour une réédition en beau voilà. livre du commun des mortels,
chez
Gérard,
la Martinière.
Voilà, chez la Martinière, pourquoi pas, vous vous ferez mettre des photos de ce commun des mortels saisi par Vinciane Lemonnier. Merci beaucoup, Gérard Lefort. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle
merci,
que
Catherine.
Le commun des mortels, ça vient de sortir aux éditions de l'Olivier et que pour nos amis qui se retrouveront à Saint-Malo début juin, il y a Étonnant Voyageur et vous y serez. Voilà.
Oui. Alors, étonnant, j'espère, voyageur, j'ai pas encore compris, mais je
Saint-Malo,
suis.
Saint-Malo, vous savez
oui,
que
je sais. Voilà. Je sais, je suis très flatté. Très
et dans
content,
le train, c'est... dans le train, tendez l'oreille,
Paris,
Gérard.
Paris, Saint-Malo.
Allez, au revoir. L'humeur vagabonde, c'est fini pour ce dimanche, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dimanche prochain aux environs de 14h. J'aurai le plaisir de recevoir la belle actrice Marie-Lou Marini qui reprend une pièce de Copie, La journée d'une rêveuse. Formidable pièce. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Très bonne journée à l'écoute de France Inter.